Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui change à la tête de la francophonie avec Louise Mushikiwabo?
Écoutez, je connais Louise depuis au moins 10 ans. Connaissant son dynamisme, son volontarisme, son expérience, je suis certain qu'elle va amener une touche d'efficacité à la francophonie.
Quand Emmanuel Macron vous a dit, c'était en février dernier, qu'il pensait à la ministre rwandaise des Affaires étrangères pour prendre la tête de la francophonie et qu'il vous demandait de partager avec lui cette idée et de la soutenir, comment vous avez réagi?
Et je me suis dit qu'il n'y a pas mieux. Parce que la francophonie, c'est 29 États africains membres à part entière. Alors, identifier un cadre africain de haut niveau comme Louise Mushikiwabo, cela apporterait certainement une certaine synergie dont le continent africain a besoin. Naturellement, la décision a appartenu au président de son pays, à elle-même, mais quand le président Macron m'en a parlé, j'ai immédiatement dit que moi, personnellement, je pense qu'on ne trouverait pas mieux.
Alors, il y a une réaction très forte de la sortante, Michaël Jean, qui a dit ce jeudi à Yerevan, dans son discours d'adieu, que les grandes valeurs de la francophonie, comme la démocratie et les droits de l'homme, étaient victimes de ces petits arrangements entre États et de cette réelle politique.
Moi, j'ai assisté au sommet de la francophonie à Dakar. Si l'on parle d'arrangements, Dakar, c'était des arrangements. 4 candidatures africaines et pas des moindres, dont celle d'un ancien chef d'État, celle d'un grand intellectuel, Henri Lopez, ont été retirées. Nous l'avions fait avec beaucoup d'élégance et beaucoup de retenue. Il n'y a pas une citadelle quelque part qui est défendue par certains, les bien-pensants, et qu'ils sont mieux placés que même les États eux-mêmes pour la défendre. Je pense que c'est extrêmement prétentieux et il faut savoir perdre élégamment.
Donc Michaël Jean a manqué d'élégance?
Je pense. Elle a traité les autres d'inélégants. Elle n'a pas fait mieux. Je dirais même qu'elle a fait pire.
Quand elle dit que la francophonie risque de devenir moribonde, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité et que peut apporter l'Union africaine dans sa relation avec la francophonie?
Pourquoi serait-elle moribonde? C'est parce qu'une africaine va la diriger? Ça, c'est ce que je traite de prétentieux.
Alors, pour le maintien de la paix, notamment en Afrique, les Américains sont sur la pédale de frein, ils veulent mettre de moins en moins de moyens. Est-ce que vous êtes inquiet?
Je crois que nous sommes en train, nous, de notre côté, de faire tout ce qui est possible pour prendre en charge notre sécurité. La réforme en cours à l'Union africaine a un volet financier très important. Il faut financer le fonctionnement et les programmes essentiels de l'Union africaine. Nous avons également un fonds de la paix qui, pour la première fois, a recueilli plus de 50 millions de dollars. Je crois que c'est un premier début. Nous sommes en négociation avec les Nations unies. Nous nous sommes engagés à financer jusqu'à hauteur de 25% les opérations de soutien de la paix dans le continent africain. Nous continuons à discuter avec l'administration américaine sur la nécessité. Le terrorisme est une menace mondiale. Il faut qu'ensemble nous nous mettions pour pouvoir y faire face.
Et ces 25% que vous êtes prêts à mettre au pot pour le maintien de la paix, c'est sous forme d'argent africain, de soldats africains, de forces africaines?
Nous n'excluons rien. Le cas du G5 Sahel, chaque pays parmi les 5 a décidé de mettre à la disposition de cette force 1000 hommes qu'il faut équiper. Il faut de la logistique. Les modèles anciens des opérations du maintien de la paix a montré ses limites. L'amunissement coûte plus d'un milliard de dollars par an. Les gens sont dans des camps, dans des barbelés. Ils peinent à assurer leur propre sécurité. Les terroristes attaquent. Maintenant, ils sont au Burkina Faso. Faut-il attendre le G5 Sahel? Il faut soutenir cette force. Il faut la doter d'un mandat sous chapitre 7 et la financer pour traquer les terroristes.
Mais les Américains vous écoutent? Vous ont entendu à New York, par exemple, il y a 2 semaines?
On continue de discuter avec eux. Des missions sont parties à Washington. Ils n'ont pas totalement fermé la porte, même s'ils ne se sont pas précipités. J'ose espérer qu'ils se rendront à l'évidence qu'il faut agir et agir maintenant.
En Centrafrique, il y a une initiative de paix que vous portez, Moussa Faki Mahamat, avec l'Union africaine, avec le président Sassou, avec plusieurs chefs d'État africains. Et à côté de cela, on voit une initiative russe qui réunit notamment des groupes armés à Khartoum. On est un peu perdu.
Justement, le 18 septembre dernier, je me suis rendu à Bangui, où j'ai rencontré le président Touadéra, j'ai rencontré le président de l'Assemblée nationale. Effectivement, nous avons entendu parler de cette initiative. Et le président Touadéra s'est engagé, le Soudan s'est engagé que ce n'est qu'une contribution. Dorénavant, ils vont agir dans le cadre de l'initiative africaine. D'ailleurs, l'initiative africaine a le soutien total des Nations Unies. Nous avons convenu, et cela ne saura tarder, nous allons nommer un haut représentant de l'Union africaine et des Nations Unies pour coiffer l'ensemble. Il y a eu des échanges entre les groupes armés qui ont exprimé des revendications et le président Touadéra et son gouvernement. Nous allons prendre tout pour mettre en place un dispositif pour arriver à un accord de paix qui, cette fois-ci, nous l'espérons vivement, puisse être appliqué.
Côté français, on espère des élections en Libye début décembre. Est-ce que c'est réaliste?
Les dynamiques internes et l'évolution ne penchent pas à l'optimisme. Et après Nouakchott, la situation s'est détériorée davantage, notamment avec des combats à Tripoli. Aujourd'hui, il est évident qu'il y a une nécessité de refondation. L'accord de Skhirat a pu permettre une avancée, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il est contesté de partout. Il est nécessaire, et c'est ce que nous avons proposé aux Nations Unies, à l'Union européenne, aux États de la région, à la Ligue arabe, de convier une conférence de réconciliation et de paix pour la Libye, pour permettre à toutes les parties libyennes, hormis celles qui sont versées dans le terrorisme et autres, pour trouver un nouvel accord, une nouvelle transition qui puisse permettre d'organiser des élections. Il y a trop d'agendas sur la Libye, il y a beaucoup d'actions isolés, il est temps que la communauté internationale ait la légitimité entre les mains des Nations Unies et de l'Union africaine pour pouvoir convier cette conférence de réconciliation et permettre aux Libyens d'avancer vers la paix et la stabilité.
Moussa Faki Mahamat, merci.